Un quart d'heure plus tard, je courais de long en large dans la chambre, en proie à une furie d'impatience. Je m'approchais sans cesse du paravent et par la fente, je regardais Lisa. Elle restait assise par terre, la tête penchée sur le lit, et je crois qu'elle pleurait. Mais elle ne partait pas. C'était cela qui m'énervait. Pourtant, cette fois-là, elle savait tout. Je l'avais humiliée d'une façon définitive, mais à quoi bon raconter ? Elle avait deviné que cet élan de ma passion était bien une vengeance contre elle, une nouvelle humiliation, et qu'à cette haine presque sans objet que je lui avais exprimée tout à l'heure, s'en ajoutait maintenant une autre, une haine personnelle, jalouse. Du reste, je n'affirme pas qu'elle ait compris tout cela d'une façon bien nette, mais elle avait parfaitement compris que j'étais un monstre, un homme incapable de l'aimer. Je sais qu'on me dira que c'est invraisemblable, invraisemblable d'être aussi bête, aussi méchant que moi. On ajoutera aussi, peut-être, que c'était invraisemblable de ne pas l'aimer ou bien, à tout le moins, de ne pas comprendre cet amour. Pourquoi est-ce donc invraisemblable ? D'abord, déjà, je ne pouvais pas l'aimer parce que, je le répète, aimer pour moi, cela signifiait tyranniser et dominer moralement. Toute ma vie, je n'ai même jamais pu imaginer une autre forme d'amour et j'en arrive à croire aujourd'hui, de temps en temps, que l'amour ne peut être rien d'autre qu'un droit volontairement donné à l'objet que l'on aime de nous tyranniser. Dans mes rêves de sous-sol, je ne me représentais jamais l'amour autrement que sous la forme d'une lutte, que je commençais toujours par de la haine et que je terminais par une soumission morale. Puis, je n'arrivais même plus à m'imaginer ce que je pouvais bien faire avec l'objet que je venais de me soumettre. Et qu'y a-t-il d'invraisemblable, en plus, si j'avais eu le temps de me dépraver moralement au point que j'avais perdu l'habitude de la vie vivante, que j'avais eu l'idée de lui faire des reproches, de lui faire honte qu'elle fût venue chez moi entendre des paroles touchantes. Et je n'avais pas compris moi-même que ce n'était pas pour ces paroles touchantes qu'elle était venue, mais pour m'aimer, parce que c'est dans l'amour que réside toute la résurrection de la femme, son salut de toute forme de mort et toute sa renaissance. Ils n'ont pas d'autre forme pour s'exprimer. Remarquez, je ne dirai pas que je la détestais si fort quand je courais de long en large et que je regardais par la fente du paravent. C'est sa présence qui m'était odieuse, insupportable. Je voulais qu'elle disparaisse. La paix, je voulais ça. Je voulais rester seul dans mon sous-sol. La vie vivante, par manque d'habitude, elle m'avait écrasé tellement que j'avais du mal à respirer. Quelques minutes passèrent encore. Elle ne se levait toujours pas. Elle semblait être ailleurs. J'eus l'indécence de frapper doucement au paravent pour lui rappeler. Elle sursauta soudain, se leva d'un bloc et se mit à chercher son châle, son chapeau, son manteau, comme si elle voulait se sauver loin de moi. 2 minutes plus tard, elle sortait lentement de derrière le paravent et me fixait d'un regard lourd. J'eus un ricanement méchant, forcé d'ailleurs, pour faire bien, et je me détournai de son regard. « Adieu !» murmura-t-elle, se dirigeant vers la porte. Soudain, je courus vers elle, je lui saisis la main, je la desserrai, j'y mis, et je la resserrai. Puis, sur le champ, je me retournai à nouveau, et je courus me rencogner à l'autre bout de la pièce, pour ne pas voir, au moins. Je voulais mentir, à l'instant même, écrire que je ne l'avais pas fait exprès, sans y penser, perdu comme un idiot. Mais je ne veux pas mentir. Je dis donc ouvertement que je lui avais desserré le poing et que j'y avais mis par méchanceté. Cette idée m'avait traversé la tête pendant que je courais de long en large et qu'elle restait assise derrière le paravent. Mais voilà ce que je peux dire à coup sûr. Cette cruauté, je l'ai commise exprès, bien sûr. Sauf qu'elle ne venait pas de mon cœur, elle venait du défaut qu'il y a dans ma tête. Cette cruauté, elle est tellement pour la frime, tellement intellectuelle, inventée tout exprès, livresque, que moi-même, je n'y tins pas une minute. D'abord, j'avais couru jusqu'à l'autre coin pour ne pas voir, puis, avec honte et désespoir, je m'étais précipité à la poursuite de Lisa. J'ouvris la porte de l'entrée et je me mis à écouter. « Lisa, Lisa !» criai-je dans l'escalier, mais sans trop de courage, pas bien haut. Il n'y eut pas de réponse. J'eus l'impression d'entendre ses pas sur les dernières marches. « Lisa !» criai-je plus fort. Pas de réponse. Pourtant, au même moment, j'entendis les crissements pénibles de la lourde porte vitrée qui donnait sur la rue. Elle s'ouvrit et elle se referma de tout son poids. Sa rumeur remontait l'escalier. Elle était partie. Je regagnai ma chambre. C'était horrible comme ça me pesait. Je me suis arrêté devant la table, près de la chaise qu'elle venait d'occuper. Je lançai un regard absurde devant moi. Une minute passa. Soudain, un frisson me transperça tout entier. Juste devant mes yeux, sur la table, j'avais vu... Bref, ce billet froissé de 5 roubles, ce même billet que je venais de lui fourrer dans le poing, c'était le même billet. Il ne pouvait pas y en avoir d'autre. Il n'y en avait pas d'autre dans toute la maison. Elle avait eu le temps, sans doute, de le jeter sur la table, à la minute où moi, j'avais couru me réfugier à l'autre bout. Et quoi ? Je pouvais bien m'attendre à ce qu'elle le fasse. Je pouvais m'y attendre ? Non. J'étais à ce point égoïste. J'avais si peu de respect, en fait, pour les gens, que je ne pouvais imaginer que, même elle, elle allait le faire. Cela, je ne l'ai pas supporté. Un instant plus tard, comme un fou, j'étais en train de m'habiller. Je me mettais sur le dos ce que je trouvais à la hâte et je courais à sa poursuite. Elle n'avait pas eu le temps de faire 200 pas quand je me retrouvais sur le trottoir. Tout était calme. La neige tombait à gros flocons, presque en ligne droite. Elle couvrait d'un coussin le trottoir et la rue déserte. Pas un passant. Aucun bruit. Les réverbères clignaient, moroses et inutiles. Je courus quelques 200 pas jusqu'au carrefour et m'arrêtai. Où est-ce qu'elle est partie ? Pourquoi je lui cours après ? Pourquoi ? Tomber devant elle, sangloter de remords, lui embrasser les pieds, implorer son pardon ? C'était cela que je voulais. Toute ma poitrine se déchirait. Jamais je ne repenserai à cette minute avec indifférence. Mais pourquoi ? Me dis-je soudain. Ne vais-je pas la haïr, peut-être dès demain, pour cette raison même, qu'aujourd'hui je lui ai embrassé les pieds ? Est-ce que je lui donnerai le bonheur ? Est-ce que je n'ai pas su une nouvelle fois, aujourd'hui même, ce que je valais ? Est-ce que je ne finirai pas par la tuer ? Je restais là, dans la neige, scrutant cette obscurité trouble. Je pensais à tout cela. Ne serait-il pas mieux, oui, ne serait-il pas mieux, fantasmais-je, une fois rentré chez moi, pour étouffer avec mes fantaisies la douleur bien vivante dans ma poitrine, ne serait-il pas mieux qu'elle emporte avec elle, maintenant pour toujours, son humiliation ? L'humiliation, mais c'est une purification. C'est la conscience la plus amère, la plus douloureuse. Dès demain, je lui aurai souillé l'âme à mon contact. Maintenant, l'humiliation en elle, elle ne mourra jamais. Et l'ordure qui l'attend aura beau être sale, l'humiliation l'élèvera et la purifiera par la haine. Peut-être, et le pardon. Encore que, est-ce que ça sera plus facile pour elle ? C'est vrai, pourtant. Je me pose une question complètement oiseuse. Que vaut-il mieux ? Un bonheur bon marché ou une souffrance qui coûte cher ? Non, mais... Que vaut-il mieux ? Voilà ce qui me passait par la tête, le soir même, comme je restais chez moi, à demi-mort de souffrance morale. Jamais je n'avais encore supporté tant de souffrance et de remords. Mais pouvait-il y avoir le moindre doute, quand je bondissais hors de chez moi, que je ne rebrousserais pas chemin en plein milieu ? Je n'ai jamais plus rencontré Lisa, et je n'ai plus entendu parler d'elle. J'ajouterai aussi que, pendant longtemps, Je suis resté content de la phrase sur l'utilité de l'humiliation et de la haine, bien que moi-même, j'ai failli tomber malade d'angoisse à ce moment. Même maintenant, après tant d'années, tout cela fait trop pas bien dans mon souvenir. Il y a beaucoup de choses maintenant qui me restent pas bien, mais ne vaudrait-il pas mieux achever les carnets ici ? J'ai l'impression que j'ai commis une erreur en commençant de les écrire. Du moins, ai-je toujours eu honte pendant que j'écrivais ce récit ? N'est-ce pas ? Ce n'est plus de la littérature, c'est une peine de redressement. Car raconter, par exemple, de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt. Le roman a besoin d'un héros, et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros. Et puis surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude même, qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la vie vivante. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ? La véritable vie vivante, c'est tout juste si nous ne la ressentons pas comme un travail, comme une carrière presque. Et nous sommes tous d'accord, au fond de nous, que c'est mieux dans les livres. Et pourquoi nous agitons-nous parfois ? Pourquoi délirons-nous ? Et nous demandons-nous quoi ? Nous ne le savons pas nous-mêmes. Ce serait pire pour nous si nos prières délirantes se trouvaient exaucées. Tenez, essayez donc. Mais oui, donnez-nous, par exemple, plus d'indépendance. Déliez-nous les mains à tous. Élargissez le champ de nos activités. Relâchez la surveillance et nous... Je vous assure, la première chose que nous ferons, c'est de redemander qu'on nous surveille. Je sais, peut-être, qu'après ce que je viens de dire, vous allez vous fâcher contre moi, vous hurlerez, vous taperez des pieds. Oh là, parlez au moins pour vous, de vos petites misères dans le sous-sol, mais de quel droit dites-vous, nous tous ? Permettez, messieurs, je ne pourrai pas me justifier, de toute façon, avec cette nous-toussité. Pour ce qui me concerne personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est, dans ma vie, d'amener à la limite ce que vous-même, vous avez peur d'amener ne serait-ce qu'à la moitié, tout en prenant en plus votre lâcheté pour du bon sens, ce qui vous console et qui vous berne. Si bien que, de nous tous, c'est moi sans doute qui ressort le plus vivant. Mais ouvrez donc les yeux. Nous ne savons même pas où il vit, ce vivant-là, et ce qu'il est vraiment, et comment il s'appelle. Laissez-nous seuls, sans livre, et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous accrocher, à quoi nous retenir. Quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser. Mais maître des hommes, cela nous pèse. Des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela. Nous prenons cela pour une tâche et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. Nous sommes tous morts-nés, et depuis bien longtemps. Les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes, et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt, nous inventerons un moyen pour naître d'une idée. Mais ça suffit, je n'ai plus envie d'écrire, moi, du fond de mon sous-sol. Pourtant, ce n'est pas là que s'achèvent les carnets de cet homme paradoxal. C'était plus fort que lui, il a continué. Mais il nous semble, à nous aussi, que c'est ici que l'on peut s'arrêter.